Merci beaucoup, Mathieu. Je vais vous passer la parole. Olivier, il y a de nombreuses questions et pistes.
Merci très, très, voilà, à nouveau, très, très, très fortement à vous deux pour la densité et la force, en fait, de vos deux exposés et l'honneur qui m'y est fait dans les deux cas, vraiment, vraiment beaucoup. Pour commencer par l'exposé d'Olivier, je serai plus bref que sur celui de Mathieu Trachmann, mais c'est uniquement parce que si je voulais entrer dans le détail, alors je risquerais d'être très très long vu la quantité de choses que nous partageons, toi et moi, Olivier. Donc ce que je vais surtout faire, c'est livrer une impression, voilà. En fait, tu as c'est tout simplement, en fait, c'est l'impression heureuse dans laquelle j'ai c'est le bonheur dans lequel j'ai nagé en t'écoutant, voilà. Et je voudrais essayer d'expliquer pourquoi. Bien sûr, je ne peux pas le cacher, je ne peux pas le dissimuler. Il y a le bonheur et la fierté que j'éprouve venant de toi quand tu dis à quel point ce livre t'a été utile et te sert et a compté pour toi. C'est la première chose. Mais il y a autre chose que tu as dit et qui m'a renvoyé déjà à l'impression heureuse que j'ai éprouvée en écoutant tout à l'heure Ana Perín Heredia, c'est que, au fond, sur cette question de la place des femmes dans la famille, dans les classes populaires aujourd'hui, et de leur accès à du temps pour soi, au fond, ce que tu disais, c'est que à la fois le monde privé t'avait aidé à penser cela, donc tu pensais avec, mais que tu pensais aussi par écart, au contre, ce livre. Et déjà, pour d'autres raisons, Anna avait dit que sur certaines questions, elle avait été amenée à penser par écart ou contre certaines analyses du livre. Et au fond, ce que je découvre, alors je pourrais vous épargner ça parce que ça ne concerne que moi, mais c'est finalement, voilà, je viens de découvrir le bonheur que cela peut faire qu'on vous dise qu'on a pensé à certains égards contre des choses que vous avez écrites. Voilà. Et ce bonheur, en l'occurrence, il est fait de deux choses. Alors, la première, qui est commune avec le bonheur que m'avait donné déjà ce qu'avait dit tout à l'heure Anna, bon, ben voilà, c'est le fait que si on pense à tel ou tel moment par écart avec ce que vous avez écrit, même si c'est par écart, ça, c'est le signe que vous avez compté. Donc, bon, ben voilà, narcissiquement, ça fait du bien. Bon, voilà. Mais au-delà de ça, il y a une seconde raison qui est plus propre à ce que tu, au contenu de ton propos, c'est que, au fond, ce qui te conduit sur la question des femmes à t'écarter de ce livre, ben c'est que sur cette question-là, il y a une page qui est tournée, au fond. Et c'est-à-dire que ce que tu montres, c'est que sur cette question, eh bien, de l'accès des femmes dans les classes populaires, dans les familles populaires, à du temps pour soi, ben tout simplement des transformations très importantes, suffisamment très importantes en tout cas, se sont produites dans le fonctionnement des familles populaires concernant la place des femmes dans la famille, des transformations d'une ampleur suffisante pour que un ouvrage paru il y a 25 ans ne soit plus le bon. Et ça, j'ai bien compris que par ailleurs cet ouvrage t'aide à penser ces choses, mais ça a quelque chose au fond de très heureux pour moi, parce que ce qui est très heureux au fond, c'est l'audace combinée en même temps en permanence avec un très fort principe de réalité sociologique, mais l'audace avec laquelle tu as dit au fond quelque chose qui est tellement difficile à dire pour les sociologues du populaire, c'est qu'il y avait eu des transformations de grande ampleur dans les modes de vie populaires au cours des 3 ou 4 dernières décennies. Et ça, alors si je me trompe, ou si ce que je dis paraît unilatéral, sûrement des collègues ici ou des personnes dans l'assistance présente le diront, mais il me semble que sur la question des modes de vie populaire, la tendance quand même dans le micro-milieu intellectuel que nous formons, nous autres sociologues de la classe ouvrière ou des classes populaires, elle est quand même de privilégier les apports en termes de reproduction, parce que cela nous rassure intellectuellement. Parce qu'au fond, reconnaître que je ne parle pas des conditions d'existence, parce que sur les conditions d'existence, il est bien clair qu'en 30 ou 40 ans, elles se sont très profondément transformées. Mais sur les modes de vie, au fond, nous préférons quand même raisonner d'abord et avant tout en termes de reproduction. Reproduction des habitus, des manières d'être. Bon. Parce que reconnaître qu'il puisse y avoir eu des changements, des déplacements, des transformations, même si limité que ce soit, ça risque quand même... ça pourrait vouloir dire que les habitus populaires ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient, qu'il y a peut-être plus tout à fait de perduration du populaire, que la reproduction ne se fait plus. Et en particulier, ça remet en question la représentation ou l'image à laquelle nous sommes très souvent attachés, d'une espèce de perduration, de fixité, de pureté d'habitus populaires qui se maintiendrait en permanence. Bon. Les sociologues du populaire et des classes dominées n'aiment pas la thématique du changement, n'aiment pas la thématique des transformations pour tout ce qui concerne les modes de vie. On a très souvent peur que ça nous fasse basculer du côté de Mandras. Bon. Et comme la sociologie des classes populaires est une sociologie qui est extrêmement surveillée, dans laquelle on a quand même très souvent peur, quand on dit quelque chose, de se faire immédiatement fusiller pour hétérodoxie, pour moi, il y a quelque chose de très profondément heureux à t'avoir entendu dire, très clairement, que sur une question quand même tout simplement fondamentale, qui est celle de la place des femmes dans les familles populaires aujourd'hui, la page est tournée par rapport à ce que j'avais pu dire il y a 30 ou il y a 25 ans, après tant d'autres, parce que sur cette question de la place des femmes dans la famille, il y a toute une littérature qui a montré comment, au fond, de la fin du 19e jusqu'aux années 60, les choses ont été au contraire marquées dans un autre sens. Bon. Et ça, je trouve que voilà, c'est une très très belle audace. Donc, je t'en remercie vraiment beaucoup pour nous tous qui travaillons avec toi dans cette ANR que tu as très très bien décrite, en oubliant juste de dire que tu en étais le responsable, mais ça ne m'étonne pas de toi, mais c'est Olivier Masqueret qui la dirige. Voilà. Et alors, par ailleurs, ce qui fait que cette audace que tu as et que je crois qu'il faut qu'on ait, est là tellement crédible intellectuellement, c'est qu'elle est accompagnée chez toi d'un très très fort principe de réalité sociologique. C'est-à-dire qu'en même temps que tu as cette audace, tu soulignes très très fortement, une bonne partie de ton exposé a consisté à le montrer, à quel point cet accès... À certains égards élargi, à certains égards déverrouillé, a du temps pour soi, pour ces femmes, tu as passé une bonne partie de ton temps à montrer comment ils s'assortissaient de tout un ensemble de limitations sociales extrêmement fortes, qui demeuraient très très fortes. Bon. Certaines, mais pas d'autres, certaines, mais plus que d'autres. Cet accès se faisant dans des formes qui demeurent très profondément celles des classes populaires, et ce qui est très frappant à t'entendre, c'est à quel point, dès qu'on entre dans l'analyse détaillée des modalités sous lesquelles cet accès se fait, alors on retrouve le populaire dans toutes ses formes et toutes ses logiques. Bon, donc voilà. Merci à toi, Olivier, d'abord et avant tout, voilà, pour cette audace. Et je crois qu'on en a vraiment besoin si on veut être à la hauteur de ce que c'est qu'une réflexion sociologique sur les classes populaires telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Bon. Je pourrais être long sur le contenu après voilà de tout ce que tu as si bien exposé, Olivier. Pour des raisons de temps, je le ferai pas, mais j'aurais eu plein de choses à dire. Une ou deux réactions maintenant sur votre exposé, Mathieu Trachman. Pareil, immense merci à vous pour cet exposé qui soulève des questions très 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 fondamentales, très interpellantes, comme on dit pour moi, et sur lesquelles en fait j'ai eu très très peu l'occasion de réfléchir, parce que comme je vous disais tout à l'heure, en fait c'est un aspect du livre qui a été très très peu abordé chez les sociologues. Bon. Je crois parce que ces questions de la violence des hommes sur les femmes, on a toujours un petit peu de difficulté à en parler quand on est sociologue des classes populaires, des classes dominées. On craint d'en ajouter sur la stigmatisation. Et aussi parce que, et je le comprends ô combien, les collègues sociologues qui ont lu le livre jusque-là se sont dit « qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce que c'est que cette psychanalyse ?» Bon, voilà. Et alors peut-être, il y a énormément de questions dans votre intervention dont je ne pourrais pas parler. Tout ça, ce n'est pas par manque de temps, c'est parce que je ne suis pas prêt, au fond, intellectuellement. Je ne suis pas assez avancé sur ces questions pour, je veux dire, faut, voilà, qui mériteraient vraiment beaucoup de réflexion de ma part. Donc je vais réagir au fond sur deux points, puis comme ça je ne serai pas trop long. La première, c'est au fond sur l'usage que j'ai tenté de faire de la psychanalyse dans sur cette question, et puis d'autre part sur au total, non pas au total, mais par rapport au fond aux questions que vous souleviez, ce en quoi je pense que l'approche que j'avais eue, ce en quoi il me semble qu'elle tenait la route et ce qu'elle a manqué. Voilà. Sur l'usage que j'ai tenté de faire de la psychanalyse, alors je ne sais absolument pas s'il est pertinent ou éclairant. En tout cas, mais là, ça n'est pas du tout une réponse alors à vous. C'est juste pour m'expliquer, mais ce n'est pas du tout par rapport à des... Parce que je ne me suis pas du tout senti, comment dirais-je, critiqué là-dessus. Voilà. Mais c'est juste pour essayer de m'expliquer... il me semble, enfin j'espère n'avoir donné à aucun moment, en fait je dis ça mais je sais bien que c'est le contraire, que j'ai dû donner ce sentiment, mais j'aimerais ne pas avoir donné le sentiment que j'ai voulu expliquer certaines des violences auxquelles j'étais pas confronté, mais parce que si j'en ai parlé c'est qu'elles progressivement elles sont arrivées très très fortement dans l'enquête. J'espère ne pas avoir donné le sentiment que j'ai cru possible que j'ai voulu les expliquer à partir de certains types de conflits psychiques ou de personnalités psychiques qui en seraient plus ou moins la cause. Non pas que je récuse l'explication, bien sûr que je ne la récuse pas, mais ça pour le coup ça m'aurait fait entièrement sortir d'une approche de type sociologique sur ces questions, chercher quel type de fonctionnement, de conflits psychiques peuvent alimenter ces violences. Ça c'est une affaire qui concerne d'autres disciplines que la nôtre. Bon. En fait, ce que j'ai tenté de faire, au fond, c'est ceci. Enfin, le moment, disons, où j'ai eu recours à la psychanalyse, en l'occurrence à Melanie Klein, comme vous l'avez très bien redit, au fond, c'est à propos de la question suivante. J'ai simplement rapproché deux choses. J'ai cru possible de les rapprocher. La première, c'est le fait que, par suite de la place qui est la leur dans la famille, les femmes dans le monde ouvrier que j'avais sous les yeux, donc qui n'est plus celui que décrivent, auquel faisait référence Olivier, mais les femmes dans le monde ouvrier que j'avais sous les yeux occupaient toute une série de fonctions, de rôles, de tâches qui les installait très fortement dans une figure de mère. Alors ça, bien sûr, j'ai déjà conscience que le simple fait de dire cela est un geste interprétatif qui peut se contester. Hein, je tente ici de vous montrer simplement comment j'ai fonctionné. Qu'elles étaient dans une figure de mère. Bon. C'est un thème qui est peut-être discutable, mais qui revient très, très, très fréquemment dans la littérature sur ces questions. Michelet, déjà, dans Le Peuple, dit cela. Bon. Donc, première chose, bon. Elles sont nourricières, elles assurent la pérennité du foyer, elles assurent la pérennité de la famille comme lieu de sécurité, de présence, d'enveloppement. Bon. Donc, premier point. Bon. J'ai cru possible de rapprocher cela d'une autre série de données qui revenait très souvent dans les discussions que j'avais avec des femmes qui étaient frappées par leur époux. C'est qu'elles étaient nombreuses à dire, enfin nombreuses, plusieurs, hein, mais je ne pourrais pas dire le chiffre, mais ce n'était pas des dizaines, mais plusieurs me disaient... C'est toujours moi qui prends. Le moindre pépin qu'il y a, même si j'y suis pour rien, c'est parti, je prends des coups. Bon. Donc, alors, ça peut être le repas qui n'est pas prêt quand il rentre, quand son mari rentre, mais il n'est pas prêt, il n'est pas tout de suite prêt. Mais ça peut être aussi bien les enfants qui sont bruyants. Bon. Et donc, il revient du travail, il est fatigué. ça l'énerve et ça démarre tôt ou tard il la frappe pas. Peut-être parce que elle lui a dit mais écoute t'énerve pas contre les enfants bon, et il la frappe pas. Et à un certain moment j'ai rapproché ces deux choses. L'usage que j'ai cru possible de faire de la psychanalyse kleinienne, en fait il est là, c'est que je me suis dit au fond est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre la figure de mère dans laquelle, me semble-t-il, elles sont, et le fait que, à la moindre contrariété, elles sont frappées. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien au sens ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre la figure de mère dans laquelle elles sont, figure de mère, figure de femme à qui ? De qui on peut tout attendre ? Ça veut dire ça, figure de mère. Figure de femme, de qui on peut tout attendre ? De qui on peut tout exiger ? Une fois qu'on revient chez soi, on a travaillé, on a amené son salaire, on a rempli son rôle d'homme. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre cette figure de femme, d'épouse, de qui on peut tout attendre une fois qu'on revient chez soi, de qui on peut attendre toutes les présences et toute la garantie du foyer, et le fait que, à la moindre contrariété, on les frappe parce que justement, d'elles, on peut tout attendre ou tout exiger. Bon. Et en particulier qu'elles assurent le fait qu'il n'y a pas de contrariété. Bon. Et je continue, pas en espérant convaincre qui que ce soit, mais juste pour dire comment j'ai raisonné. À partir de là, je me suis dit, j'ai pensé à l'analyse que proposait Melanie Klein de la figure de la mère dans Envie et gratitude, où elle dit qu'au fond, dans la relation de l'enfant à la mère, à sa mère, il y a très souvent cette double dimension, amour de la mère bien sûr, mais aussi très vite, dit-elle, j'en sais rien, hein, montée d'agressivité quand elle ne répond pas à la demande que l'enfant a à son égard. Bon, est-ce que tout ça est pertinent ? J'en sais rien, mais j'ai fait ce rapprochement. Bon. Donc, voilà, l'usage que j'ai fait de l'approche kleinienne n'a pas consisté, me semble-t-il, à essayer de dériver la violence masculine d'un type de personnalité psychique. Elle a consisté simplement à me servir de Melanie Klein pour réfléchir sur les effets psychiques potentiels d'un certain type de fonction socialement induit. C'est pourquoi j'ai eu le sentiment, même si c'est limite, de ne pas sortir d'un travail de sociologue. Je me suis dit, au fond, il y a un cadre, il y a un ensemble de déterminations sociales qui assurent aux femmes dans le monde ouvrier que j'ai sous les yeux tel type de position, tel type de place. Ce type de place, est-ce qu'il ne se pourrait pas qu'il produise certains types d'effets psychiques que la psychanalyse kleinienne nous aide à penser ? Voilà, ceci peut-être... Voilà comment j'ai raisonné. Voilà. Donc, je n'ai pas eu le sentiment, de ce point de vue, de tomber dans le psychologisme pur et simple. Voilà. Ce premier point, voilà, peut-être pour expliquer quelle a été ma démarche. La seconde chose, puisque le second point, donc peut-être pour réagir aux questions, alors très 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 fondamentales et très voilà très interpellantes que vous me posiez sur l'hypothèse que je faisais peut avoir manqué ou en quoi elle peut appeler, en quoi est-ce qu'elle peut appeler débat, en particulier de la part des féminismes. Il me semble avec le... Voilà, au fond, pour essayer de le dire en 2-3 minutes, dans les hypothèses que je propose, puisque j'envisage deux ou trois types de scénarios qui induisent la violence masculine, et je le fais à partir des récits qui me sont faits, les rôles dans lesquels apparaissent les femmes lorsqu'elles sont frappées. Là, je me greffe vraiment sur une question que vous avez soulevée. Les rôles dans lesquels apparaissent les femmes lorsqu'elles sont frappées, au fond, ne sont jamais en tant que femmes. Ce sont soit des rôles de femmes en tant que mère, soit des rôles de femmes en tant qu'épouse. Les rôles de femmes en tant qu'épouse, c'est lorsque, par exemple, elles commencent à mener la bagarre avec leur conjoint pour qu'ils soient moins souvent absents, plus là, elles tentent de les reterritorialiser. Donc, elles sont frappées, telles étaient les hypothèses. Simplement, à l'époque, je ne savais pas que je les faisais. Bon. Mais elles sont frappées pas en tant que femmes. Elles sont frappées en tant que mères ou en tant qu'épouses. Bon. Donc, de ce point de vue, Il y a une hypothèse que je n'ai pas faite, et c'est en ce sens que mon écriture est probablement très massivement masculine. Une hypothèse que je n'ai pas faite, et bien sûr, je n'ai pas su que je ne la faisais pas. Voilà. C'est largement en vous écoutant. Je n'ai pas fait l'hypothèse sexiste. C'est-à-dire que je n'ai pas envisagé qu'elle puisse être frappée, non pas en tant que mère, non pas en tant qu'épouse, mais en tant qu'elles sont des femmes que, pour l'homme qui les frappe, il est légitime de frapper, ou des femmes peut-être que, quand on les frappe, non seulement c'est légitime, mais cela fait de vous un homme. Bon. Cette hypothèse sexiste-là, c'est bête, mais je ne l'ai pas faite. Bon, voilà. Je suppose que si j'étais en séance de psychanalyse, là, mon analyste pratiquerait ce qu'on appelle la séance courte, c'est-à-dire qu'il m'arrêterait et il me dirait, bon, on va en rester là et on se retrouve la semaine prochaine pour en parler. Voilà. Et il ferait monter le coût de la séance. Bon, voilà. Bon. Cette hypothèse-là, voilà. Alors, ce que je pense, c'est que, pour clore en tout cas, mais ma réaction aujourd'hui aux questions que vous me posez, je pense en partie que ça tenait la route, en partie. Mais bien sûr, ça m'a fait manquer, ce choix non conscient m'a fait manquer des choses très profondes. Je pense que ce qui pouvait plaider c'est en faveur de cette hypothèse, c'était des choses qui me revenaient dans les récits. C'est-à-dire qu'il me semble que je n'ai pas rêvé. Il y avait bien des moments dans les récits où c'est effectivement très fortement en tant que mère. J'ai fait l'hypothèse que c'était en tant que mère non protégée, c'est-à-dire que la mère de ces hommes, leur vraie mère, alors là, les propos qu'ils me tenaient sur elle, c'est qu'elle les encadrait fortement. Bon, mais là, elle était dans un rôle de mère qu'on pouvait se permettre de battre. C'est pourquoi je disais mère non protégée. Au fond, là où il me semble que je n'ai pas rêvé, c'est que souvent dans leur récit, c'est effectivement, me semblait-il, parce qu'elle était dans des rôles de mère, exposée du coup dans son corps à leur violence, ou dans des rôles d'épouse qui voulaient les recadrer, les encadrer trop fortement pour ce qu'ils supportaient ou acceptaient. Il m'a semblé souvent que c'était dans des rôles de ce type qu'elles étaient frappées. Et il me semble que ce n'était pas complètement erroné de supposer que, pour une part, les violences masculines dont j'avais connaissance pouvaient se tramer à partir de ce type de rôle-là et à partir de situations qui naissaient dans la famille. Ça, je pense que ça tenait la route, mais évidemment, là où j'ai évidemment manqué quelque chose, au moins à titre de question que j'aurais dû me poser, c'est en écartant l'hypothèse sexiste, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle cette violence pouvait aussi se tramer ou s'enraciner dans des modes de fonctionnement qui ne sont pas nécessairement internes à la famille, des modes de fonctionnement qui à la fois sont répandus dans l'ensemble de la société, notamment en haut et en bas, et des modes de fonctionnement dont on sait quand même à quel point ils étaient, ils demeurent aujourd'hui, hein, mais à quel point ils étaient surtout importants dans le monde ouvrier, surtout celui que j'avais sous les yeux dans les années 70-80. Bon. Et des modes de fonctionnement dans lesquels l'épouse est frappée, non pas en tant qu'épouse, non pas en tant que mère substitutive, mais en tant que femme. Bon. Et je ne sais pas finalement quelle est la part de l'hypothèse, mais ce qui est de toute manière, de ma part, un loupé majeur, c'est de ne pas mettre, même simplement poser la question. Je crois, en tout cas pour m'en tenir là, je pense que c'est une réaction masculine, hein, c'est assez clairement. Bon. Il y a aussi le fait que... Je voulais pas trop attaquer les hommes, les milieux ouvriers, mais ça, c'est une erreur. On sait complète. Et quelqu'un qui a magistralement fait la preuve qu'il ne faut pas faire comme ça et qu'il y a moyen de parler de la violence masculine dans les classes populaires sans occulter quoi que ce soit et sans stigmatiser qui que ce soit, celui qui a trouvé cela, c'est l'auteur du livre qui est pour moi l'un des chefs-d'œuvre de ces 10 ou 15 dernières années, c'est bien sûr Enquête de respect de Philippe Bourgois que vous avez signalé. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Voilà, vraiment très très fortement, très fortement.
Et on donne la parole à la salle ou pas? Alors, je vais juste... Merci d'abord à tous les trois pour ces échanges fort intéressants. Est-ce qu'on a déjà pris beaucoup de retard? Mais cela dit, il y a peut-être quelques questions. Donc, à réponse rapide, sinon on va... Dominique.
Oui, vous avez dit le vrai, enfin, me semble-t-il, à la fin. C'est-à-dire que c'était difficile, travaillant sur la classe ouvrière à cette époque-là, etc., de dire quoi que ce soit de négatif sur ces hommes-là, déjà si contraints dans leur vie et professionnelle, et jusqu'à ce que ça s'étende sur la totalité de leur vie. Mais en fait, en vous écoutant, l'interprétation que je vais appeler féministe et la vôtre ne sont pas du tout contradictoires. C'est-à-dire que d'abord, il y a une autorisation sociale à l'extérieur de la famille donnée aux hommes de battre, pas simplement les femmes, les enfants aussi, c'est-à-dire ceux qui leur sont livrés pour se soulager des tensions de la vie et a fortiori de la vie quand elle est à ce point dominée. Et il y a même un encouragement social, c'est-à-dire qu'on peut rire. Enfin, là, je me souviens plus si dans le livre, il y a des entre-soi masculins où on dit bon, je l'ai encore cogné parce que franchement, elle exagérait. Il y en a pas. Bon, d'accord. Mais par ailleurs, votre interprétation, elle n'est pas contradictoire avec cette interprétation-là, dans la mesure où, quand vous dites il les frappe en tant que femme, vous, dans le livre, vous donnez la réponse un peu plus complexe. Quand Marc dit à sa femme salut, je sais plus quoi, grosse truie, enfin je sais plus quoi, après avoir cassé la figure à un automobiliste qui a traité sa mère de grosse pute. Bon. C'est-à-dire qu'il fait à sa femme ce qu'il ne peut pas faire avec sa mère. Il y a un truc que vous dites jamais, c'est qu'ils ont été dominés, ces hommes. Ils ont été dominés des mères. C'est-à-dire qu'on oublie toujours ça dans l'histoire des trajectoires masculines, c'est que les hommes ont été dominés à un moment donné de leur histoire, et par les pères qui frappaient déjà les enfants, et par les mères dont vous dites toute la puissance. Donc on peut comprendre effectivement que quand on ne peut pas dire soi-même, il faut laisser les automobilistes dire à votre mère grosse pute, on peut par contre heureusement le dire à sa femme à la fin de la journée.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Moi, j'avais une question, du coup, plutôt sur l'autre communication qui s'adresse aux deux Olivier, d'ailleurs, à voir qui voudra répondre à ma question sur cette perturbation dans la transformation du populaire, cette page qui est tournée, finalement. Je me suis demandé si la volonté de s'appartenir était propre au destin subalterne et donc aux catégories populaires. Ou est-ce qu'on peut étendre ce questionnement? Est-ce que ce n'est pas une problématique qu'on retrouve chez les cadres, avec la pénétration massive du travail dans la vie privée? Est-ce que ce n'est pas une problématique qu'on peut trouver de la parentalité, de la conciliation vie privée pour vie professionnelle chez les classes supérieures? Est-ce que ce n'est pas une problématique aussi qu'on rencontre ou qui trouve un écho dans le salarié indépendant qui justifie de prendre le risque, cette volonté de s'appartenir, d'une vie, d'une incertitude sur un marché du travail plus complexe avec la vie de l'indépendance pour pouvoir avoir le sentiment d'une liberté, d'une autonomie. Voilà. Donc j'en arrive à ma question. La question, ce serait finalement de se dire si, au-delà des classes populaires, est-ce que dans vos deux cas, est-ce que la volonté de s'appartenir, je reprends cette formule qui est très belle, est-ce que ça ne peut pas être un prisme pour analyser plus globalement le travail, le rapport au travail et les transformations plus largement des groupes sociaux et des groupes professionnels. J'ai élargi.
Pour Dominique, je vous en fait. Non.
Dans le micro et en une minute chacun.
Pour Dominique, en fait, je vais je suis très preneur de l'idée. Oui, non, je réagirai pas davantage parce que je saurais pas ajouter quoi que ce soit à ce que vous avez dit. Mais je suis très preneur de l'idée qu'il n'y a pas forcément incompatibilité entre les deux. Absolument. Non. Merci à vous. Non, je le mets là. Mais peut-être. Merci Olivier. Pour ce que Je ne sais plus si on se voyait au se tutoyait, Nadège, mais bon, on se tutoie, là, Nadège, voilà, pour ce que tu... pareil, alors, la question est immense, et en plus, excède très largement ce sur quoi je pourrais parler avec un tout petit peu de en espérant être un tout petit peu compétent. Moi, il me semble que ce que tu dis...
Une crise caractéristique oui, des classes
je comprends. Je comprends. Moi, il me semble que ça, c'est complètement clair pour moi qu'on peut et on doit ouvrir. Ça me paraît comme ça intuitivement absolument clair qu'on peut et qu'on le doit. Ce qui fait, si tu veux, qu'on s'est, nous, dans l'ANR, davantage concentré sur ce phénomène-là dans les classes populaires, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas parce qu'on aurait le sentiment que ça leur est propre, mais c'est que nous intéresse le fait que cela marque, s'agissant des femmes, un changement important par rapport à des modes de fonctionnement qui étaient encore ceux que j'avais sous les yeux dans les années 80. Et si tu veux, ce qui m'a beaucoup frappé en lisant Beverly Skeks, parce que l'ouvrage est paru il y a peu en français, mais l'enquête est menée dans les années 80, c'est qu'il y a des choses qui apparaissent dans l'ouvrage qui sont très convergentes avec celles que j'avais eues sous les yeux. Il y a un moment donné, dans le chapitre final où elle discute avec ses enquêtés du féminisme, elle leur demande délibérément, enfin en sachant à quel point c'est un artefact, mais comment elles réagissent par rapport au féminisme. Et l'une d'entre elles lui dit, mais le féminisme, c'est des choses pour des femmes comme toi qui n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper de leurs pommes. En tout cas, telle est la formule traduite. Mais si tu étais comme moi, avec la femme et les enfants dont il faut que tu t'occupes, tu pourrais pas t'occuper de toi. Oui, j'oubliais. Le féminisme, c'est pour des personnes qui auraient d'autre à faire que de s'occuper de soi. Voilà. Mais nous, on peut pas. Et il apparaît très clairement à ce moment-là que pour elle, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que ça, le type de situation dans lequel elle est, c'est-à-dire une place dans la famille qui rend difficile l'accès à du temps pour soi, à ce qu'a décrit Olivier, c'est tout à fait le type de situation dans lequel se trouvait une bonne partie des femmes auxquelles je m'intéressais. Et Chambardelov l'avait très clairement décrit 30 ans plus tôt dans La vie quotidienne des familles ouvrières. Il dit à plusieurs reprises à quel point les femmes, dans leur grande majorité, sont dans l'impossibilité de réaliser ce qu'il appelle des projets personnels ou même simplement d'en faire. Et il parle d'un drame de ce point de vue pour les femmes du monde ouvrier. Il a d'ailleurs, je le signale, une formule qui est peut-être complètement fausse, mais que j'ai toujours trouvée très intéressante. Il dit « Le drame existentiel de certaines femmes de la bourgeoisie, c'est peut-être l'ennui, et le drame existentiel des femmes de la classe ouvrière, c'est au contraire une telle saturation de leur temps et un tel écrasement sous les tâches qu'elles sont dans l'impossibilité d'avoir de former des projets personnels. » Alors, ce qu'il faut ajouter juste, c'est que il faut jamais oublier, ça apparaît très clairement dans l'analyse, dans la description que Hogarth donne, que pour ces femmes, il y avait quand même de la classe ouvrière, il y a toutes sortes de bénéfices secondaires de cette fonction maternelle et de femme au foyer qu'elles investissent. Hein, c'est toute la figure, justement, de la mère, pour le coup, sur laquelle il y a toute une littérature qui m'avait frappé, moi. Elles accèdent aussi grâce... En s'investissant dans ces rôles dans lesquels, d'une certaine manière, elles renoncent à des projets plus personnels, mais en s'investissant dans ces rôles, elles accèdent d'abord à du pouvoir au sein du foyer, et puis à des formes de reconnaissance qui peuvent être très fortes de la part de leurs enfants, de leurs fils, de leurs filles. Et ça apparaît chez Wilmot et Jung, notamment, hein, chez Madeleine Kerr, chez... Bon, voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Bon, j'espère que personne n'a une question absolument vitale et primordiale. Non, ça va. Donc, on va enchaîner très rapidement. Je laisse pas trop de temps à la réflexion. On va enchaîner très, très rapidement sur la table ronde suivante. Je suis désolée, les organisateurs n'ont pas pris...